Pensant que des Kleenex ne feraient pas l'affaire, je suis carrément allé chercher un torchon dans le tiroir de la cuisine. Mike s'essuya le visage, reprit un peu le contrôle de lui-même, puis me regarda avec détresse. Ses yeux étaient rouges et à vif. Ce garçon n'avait pas commencé à pleurer en arrivant à ma porte. On aurait dit plutôt qu'il n'avait pas cessé de l'après-midi. « Allons-y, Mike. Aide-moi à comprendre. » « Ils se fichent tous de moi dans l'équipe, Monsieur Humberson. L'entraîneur a commencé à m'appeler Clark Gable. C'était au pique-nique de printemps de la fierté des Lions. Et maintenant, ils s'y mettent tous. Même Jimmy. » Autrement dit, Jim Ladue, le quarterback de choc de l'équipe et meilleur ami de Mike. Ça ne me surprenait pas de la part de l'entraîneur Borman. C'était un rustre qui prêchait l'évangile de la virilité et n'aimait pas qu'on vienne braconner sur ses terres, en raison sportive ou en dehors. Et j'avais entendu Mike recevoir de bien pires sobriquets. Pendant que j'assurais la surveillance du hall, je l'avais entendu se faire appeler Jumbo, George de la jungle et Godzilla. Le gros garçon s'en défendait en riant. Cette capacité à rire des moqueries et des insultes, ou même à les ignorer, est peut-être la plus grande qualité que leur taille et leur poids font acquérir aux gros balèzes. Et il faut dire qu'à côté des 2 mètres et quelques et des 135 kilos de Mike, j'avais comme un air de Mickey Rooney. Quant à l'équipe de football des Lions, elle ne comportait qu'une seule étoile. Et cette étoile, c'était Jim Ladue. N'était-ce pas son portrait en pied qui figurait sur le panneau à l'intersection de la Nationale 77 et de la Route 109? Mais s'il y avait un joueur qui permettait à Jim de briller, c'était Mike Coslow, qui prévoyait de signer avec les Texas A&M dès que cette saison de senior au lycée serait terminée. Ladue, lui, roulerait pour les Bama Crimson Tide, ainsi que son père et lui auraient été heureux de vous l'apprendre. Mais si on m'avait demandé de désigner le plus susceptible des deux de passer pro, j'aurais misé tout mon argent sur Mike. J'aimais bien Jim, mais je ne lui donnais pas longtemps avant d'être mis hors jeu par une blessure au genou ou une luxation de l'épaule. Mike, en revanche, semblait bâti pour durer. Qu'en dit Bobby Jill ? Mike Coslow et Bobby Jill Allnut étaient pratiquement inséparables. Jeune fille ravissante ? Bonne réponse. Blonde ? Bonne réponse. Pom-pom girl ? Pourquoi vous fatiguer à poser la question ? Mike a souri. Bobby Jill me soutient à 1000%. Elle me dit de relever la tête et d'arrêter de me laisser marcher sur les pieds. Une demoiselle pleine de bon sens. Ouais, c'est la meilleure des meilleures. Mais bon, j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus dans tout ça que de se faire appeler roi de Hollywood. Et comme il ne répondait pas, « Mike, parle-moi. » Je vais monter sur scène devant tous ces gens et me ridiculiser. C'est Jimmy qui me l'a dit. Jimmy est un quarterback du tonnerre et je sais que vous êtes potes tous les deux. Mais question comédie, il y connaît que dalle. Mike scia. En 1961, on n'entendait généralement pas des mots d'argot sortir de la bouche des enseignants, même ceux qui avaient leur franc-parler. Mais moi, je n'étais qu'un remplaçant, et ça me laissait une certaine liberté. Je pense que tu le sais. Comme on dit par ici, tu peux trébucher, mais tu n'es pas idiot. Les autres pensent que je le suis, dit-il à voix basse. Et j'ai juste la moyenne. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que les remplaçants ne voient pas nos dossiers scolaires, mais j'ai juste la moyenne. J'ai demandé à consulter le tien après la 2e semaine de répétition, quand j'ai vu ce dont tu étais capable sur scène. Tu as juste la moyenne, parce que en tant que joueur de football, tu es censé avoir juste la moyenne. Ça fait partie de l'éthos. Du quoi ? Devine en fonction du contexte, et réserve la caricature de l'abruti pour tes copains. Ou pour l'entraîneur Borman, qui doit sûrement attacher son sifflet au bout d'une ficelle pour se rappeler par quel bout souffler. Mike, les yeux rouges et les joues encore humides, pouffa en entendant ça. Écoute-moi. Les gens pensent automatiquement que quelqu'un d'aussi costaud que toi est un idiot. Dis-moi si je me trompe. Et d'après ce qu'on m'a dit, tu te trimbales dans ce corps-là depuis l'âge de 12 ans. Donc tu devrais le savoir. Il n'a pas démenti. Mais il m'a dit ceci. Tous les joueurs de l'équipe se sont présentés pour essayer de jouer Lenny, vous le savez. C'était une blague pour se marrer. Et il ajouta en hâte. Rien contre vous, monsieur. Tout le monde vous aime dans l'équipe. Même l'entraîneur vous aime. Il est vrai qu'un groupe intimidant de joueurs avait débarqué aux auditions, réduisant au silence les candidats plus sérieux, déclarant tous qu'ils se présentaient pour le rôle du grand ami demeuré de George Milton. Évidemment que c'était une blague, mais la lecture de Mike n'avait absolument rien eu de burlesque. Ça avait été une sacrée révélation. S'il l'avait fallu, j'aurais pris un aiguillon à bestiaux pour le faire rester dans la salle. Mais bien sûr, je n'avais pas eu besoin d'en arriver à de telles extrémités. Vous voulez savoir ce qu'il y a de plus beau dans la carrière d'un prof? C'est d'assister à ce moment où un élève découvre qu'il a un don. Aucune sensation sur Terre n'équivaut à celle-là. Mike savait que ses coéquipiers se moqueraient de lui, mais il a quand même pris le rôle. Et bien sûr, ça n'avait pas plu à l'entraîneur Borman. Oh, ce genre de choses ne plaît jamais aux entraîneurs Borman de ce monde. Mais en l'occurrence, l'homme n'y pouvait pas grand-chose, surtout avec Mimi Corcoran de mon côté. Il ne pouvait sûrement pas prétendre avoir besoin de Mike pour s'entraîner au football au mois d'avril et mai. Il en était donc réduit à se moquer de son meilleur attaquant en l'appelant Clark Gable. Il y a des types qui ne peuvent pas se défaire de l'idée que jouer la comédie est un truc de fille et de pédé frustré de ne pas être des filles. Gavin Borman était ce genre de type. Lors de la soirée traditionnelle du 1er avril chez Don Haggerty, il était venu se plaindre auprès de moi que je farcissais la tête de ce gros balourd de trop d'idées. Je lui avais répondu qu'il était absolument libre de son opinion, car l'opinion, c'est comme le trou du cul. Tout le monde en a une. Et je l'avais planté là avec son gobelet à la main et son air interloqué sur la figure. Les entraîneurs Borman de ce monde sont aussi habitués à faire régner leur loi en pratiquant l'intimidation avec des blagues de mauvais goût. Et celui-ci ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas avec le sous-fifre qui avait repris à la dernière minute le rôle de metteur en scène d'Alfie Norton. Je me voyais mal expliquer à Borman que liquider un type pour l'empêcher de tuer sa femme et ses gosses avait le don de vous changer un homme. De toute façon, l'entraîneur n'avait aucune chance dans cette histoire. J'avais attribué des rôles de villageois à quelques autres footballeurs de l'équipe. Mais à la seconde où il avait ouvert la bouche pour dire « Je me souviens des lapins, George !» j'avais décidé que Mike serait Lenny. Il était devenu Lenny. Il s'emparait non seulement de votre regard, par son physique sacrément imposant, mais aussi de votre cœur. On en oubliait tout le reste, comme les spectateurs dans les tribunes oubliaient leurs soucis quotidiens quand Jim Ladue s'effaçait après une passe. Mike était peut-être bâti pour percer la ligne adverse dans une humble obscurité, mais il avait été fait par Dieu, si une telle divinité existe, ou par un coup de dé génétique, pour se tenir debout sur une scène et s'effacer au profit d'un autre. C'était une blague pour tous les autres, sauf pour toi, je lui dis. Pour moi aussi, au départ, parce que au départ, tu ne savais pas. Non, je savais pas. La voix enrouée, chuchotant presque. Il baissa la tête, ses yeux s'étaient à nouveau remplis de larmes et il ne voulait pas que je le voie. Son entraîneur l'avait appelé Clark Gable. Et si je demandais à ce rustre de s'en expliquer, il prétendrait que c'était juste pour plaisanter. De la rigolade, pas de quoi faire un drame. Comme s'il ne savait pas que le reste de l'équipe allait reprendre la balle au bon et se la repasser. comme s'il ne savait pas que ce genre d'attaque blesserait Mike bien davantage que d'être appelé Jumbo. Pourquoi les gens s'en prennent-ils ainsi aux plus doués? Par jalousie? Par peur? Les deux peut-être. Mais Mike avait pour lui d'être conscient de son talent. Et nous savions tous les deux que le vrai problème n'était pas l'entraîneur Borman. La seule personne qui pouvait empêcher Mike de monter sur scène le lendemain soir était Mike lui-même.
« Tu as joué au football devant des publics 10 fois plus nombreux que celui qui sera dans la salle demain soir. »« Bon sang, quand vous êtes allé à Dallas pour les rencontres régionales en novembre dernier, vous avez joué devant un public de 10 ou 12 000 personnes. Et plutôt hostile encore. Ah, le football, c'est différent. Quand on entre sur le terrain, on porte tous le même uniforme et le même casque. Les gens ne peuvent nous distinguer les uns des autres que par notre numéro. On est tous du même côté.
Il y a 9 autres comédiens avec toi dans la pièce, Mike. Sans compter les rôles de villageois que j'ai rajoutés pour donner quelque chose à faire à tes copains footballeurs. Vous formez une équipe, là aussi. C'est pas pareil. Ah, peut-être pas tout à fait. Mais il y a une ressemblance. Si tu laisses tomber, tout s'écroule. Et tout le monde est perdant. Les acteurs, l'équipe, les filles du pep club qui ont assuré la publicité, et tous les gens qui ont l'intention de venir assister au spectacle, certains depuis des ranchs distants de plus de 60 bornes. Sans parler de moi. Moi aussi, je suis perdant. Sûrement, a-t-il dit. Il regardait ses pieds, et c'était assurément de grands pieds. Je pourrais supporter de perdre Slim ou Curley. J'enverrais quelqu'un sur scène avec le livre pour lire leurs répliques. J'imagine que je pourrais même perdre la femme de Curley. Oh, je regrette que Sandy soit pas un peu meilleure, intervint Mike. Elle est vachement jolie, mais quand ses répliques tombent juste, c'est par accident.
Je me suis autorisé à sourire intérieurement. Je commençais à croire que tout allait bien se terminer.
Ce que je ne pourrais pas supporter, et que toute la représentation ne pourrait pas supporter, ça serait de te perdre ou de perdre Vince Knowles.
Vince jouait George, le compagnon de route de Lenny. Et nous aurions pu à la rigueur nous passer de lui s'il avait attrapé la grippe ou eu un accident, ce qui était toujours possible vu la vitesse à laquelle il conduisait à la bétaillère de la ferme familiale. J'aurais remplacé Vince s'il l'avait fallu, même si j'étais beaucoup trop grand pour le rôle. Et je n'aurais même pas eu besoin du livre. Après 6 semaines de répétition, je savais le texte par cœur, comme tous mes acteurs. Ou presque. Mais Mike, je ne pouvais pas le remplacer. Personne ne pouvait le remplacer. Avec cette alliance unique en lui de la stature et du talent, il était la cheville ouvrière de notre entreprise théâtrale.
« Et si je merde ?» me demanda-t-il. Aussitôt, il a mis sa main devant sa bouche.
Je me suis assis à côté de lui sur le canapé. Il ne restait pas beaucoup de place, mais j'y tenais. À cet instant, je ne pensais plus à John Kennedy, ni à Al Templeton, ni à Frank Dunning, ni au monde d'où je venais. À cet instant, je ne pensais plus à rien qu'à ce grand garçon et à ma représentation. Parce qu'à un moment donné, elle était devenue mienne. Tout comme cette époque révolue de lignes de téléphone partagées et de gaz de ville bon marché était devenue mienne. À cet instant, je me souciais plus de jouer des souris et des hommes que de liquider Lee Harvey Oswald. Mais je me souciais encore plus de Mike. J'ai retiré sa main de devant sa bouche. Je l'ai posée sur son énorme cuisse. Puis j'ai posé mes mains sur ses épaules et je l'ai regardé dans les yeux. « Écoute-moi, » je lui dis. « Tu m'écoutes ?»«
Oui, monsieur. »
« Tu ne vas pas merder.
Dis-le. »«
Je...
Dis-le. »«
Je ne vais pas merder. » »« Ce que tu vas faire, c'est les épater. »
Je te le promets, Mike. »
J'ai serré plus fort ses épaules.
C'était comme essayer d'enfoncer mes doigts dans de la pierre.
Il aurait pu me soulever et me briser sur son genou, mais il est juste resté là, à me regarder avec des yeux emplis d'humilité et d'espoir, et encore brillants de larmes.
« Tu m'entends ? Je te le promets. »